Elaine s'attendait à cette question, puisqu'on lui avait suggéré de réfléchir sur le sujet. Choisir n'avait pas été facile, mais elle y était parvenue. Quand elle parla, des flux de saïdar s'entrelacèrent entre elle et Avienda, et aucun son ne sortit de ses lèvres. Même chose pour Layel. D'instinct, une partie de l'esprit d'Elaine analysa les tissages. Même en cet instant, la soif d'apprendre était chez elle une caractéristique comparable à la couleur de ses yeux. Les tissages se volatilisèrent alors que les lèvres de la jeune femme se refermaient.
Avienda est si sûre d'elle, si fière. Elle se moque de ce que pensent les autres. Tout ce qui importe, c'est ce qu'elle veut être.
Avec le même décalage, Elaine entendit ce que venait de dire Avienda.
Même quand elle a la bouche sèche de terreur, Elaine ne plie pas. Elle est la personne la plus courageuse que je connaisse.
Elaine dévisagea son amie. Avienda la trouvait courageuse? Bon, elle n'avait rien d'une poule mouillée, mais quand même. Bizarrement, Layel la regardait aussi avec des yeux ronds.
« Le courage est un puits »,
souffla Viendré à l'oreille de la future reine.
« Profond chez certains, et pas chez d'autres. Mais dans tous les cas, les puits se tarissent, même s'ils se remplissent de nouveau un jour. Tôt ou tard, tu affronteras le danger de trop. Ton échine se liquéfiera, et ton fabuleux courage t'abandonnera, te laissant en larmes dans la poussière. Un jour, tu connaîtras ce sort. »
À l'entendre, Viendré piaffait d'impatience d'être là pour voir ça. Elaine acquiesça. Son échine se liquéfiait. Chaque jour, elle luttait pour que ça n'arrive pas. D'un ton presque aussi jubilatoire que celui de Viendré, Tamela s'adressa à Avienda.
Le Gietto t'emprisonne comme des liens d'acier. Pour le G, tu fais de toi exactement ce qu'on attend. Pour le To, s'il le faut, tu t'abaisseras et tu ramperas dans la poussière. Parce que tu te soucies énormément de ce que les autres pensent. »
Elaine laissa échapper un petit cri. C'était cruel et injuste. Sur le Gietto, elle en savait très long. Et Avienda n'était pas ainsi. Pourtant, elle hochait docilement la tête, exactement comme elle un peu plus tôt. Une façon d'accepter, non sans impatience, ce qu'elle savait déjà.
« De belles caractéristiques à aimer, chez une première sœur. »
dit Monaël, en remontant son châle jusqu'à ses coudes.
« Mais quel est le pire défaut de l'une comme de l'autre ?»
Elaine bougea un peu sur ses genoux glacés et s'humecta les lèvres avant de parler. Elle redoutait cet instant depuis des jours. En sus de l'avertissement de Monaël, Avienda lui avait dit qu'elle ne devrait pas mentir. Sinon, qu'aurait valu leur lien. Une nouvelle fois, les tissages emprisonnèrent leurs paroles, jusqu'à ce qu'elles aient fini.
« Avienda !»
dit la voix d'Elaine avec le troublant décalage.
« Elle est... Pour elle, la violence est toujours la réponse. Parfois, elle ne réfléchit pas plus loin que le manche de son couteau, comme un gamin qui refuse de grandir. Elaine sait... »
commença la voix d'Avienda. Une hésitation, puis un débit très rapide.
« Elle sait qu'elle est très belle, et a conscience de l'emprise que ça lui confère sur les hommes. Parfois, elle exhibe la moitié de ses seins en public, et elle sourit au mal pour les manipuler. »
Elaine en resta bouche bée. Avienda pensait ça d'elle? Elle la prenait pour une allumeuse? Tout aussi dépitée, Avienda voulut parler, mais Tamela lui appuya sur les épaules et s'adressa à elle d'un ton très dur.
« Et toi, tu crois que les hommes ne s'extasient pas sur ton visage? Sous les tentes étuves, tu penses qu'ils ne lorgnent pas ta poitrine et tes hanches? Tu es superbe et tu le sais. Le nier, c'est te renier. Tu aimes que les mâles te regardent et tu leur souris. N'as-tu jamais joué de ton charme pour donner plus de poids à tes arguments? Ou frôler le bras d'un interlocuteur afin de détourner son attention de la faiblesse de tes propos? Tu l'as fait, tu continueras. Et ça n'enlève rien à ta valeur. »
Avienda s'empourpra, mais Elaine dut écouter la tirade de Viendré et sentir chauffer ses propres joues.
« En toi, il y a de la violence. Le nier, c'est te renier. N'as-tu jamais rougi de fureur et frappé? N'as-tu jamais versé le sang ou rêvé de le faire? Sans envisager une autre façon de procéder, ni même réfléchir. Jusqu'à ton dernier souffle, il en sera ainsi. »
Songeant à son récent dialogue avec Taïm et à d'autres du même tonneau, Elaine crut que ses joues s'embrasaient. Et l'épreuve était loin de sa fin.
« Tes bras faibliront, »
dit Tamela à Avienda.
« Et tes jambes s'alourdiront. Un enfant sera capable de te désarmer. À quoi te serviront alors ta férocité et ton habileté? Les véritables armes, ce sont le cœur et l'esprit. Quand tu étais une promise, as-tu appris à manier la lance en un jour? Si tu n'affûtes pas ton cœur et ton esprit, tu vieilliras et deviendras une proie facile pour les enfants. Les chefs te feront asseoir dans un coin et jouer à des jeux de ficelle. Quand tu parleras, les gens n'entendront que les murmures du vent. Réfléchis, alors qu'il en est encore temps.
La beauté s'évanouit,
dit Viendré à Elaine.
Avec les années, tes seins tomberont, ta chair deviendra flasque et ta peau sera sèche comme du parchemin. Les hommes qui t'admiraient te parleront comme si tu étais un de leurs vieux amis. Ton mari te verra peut-être encore avec les yeux de l'amour, mais plus un seul prétendant ne rêvera de toi. Cesseras-tu alors d'être toi-même? Ton corps n'est qu'une enveloppe. Il s'abîmera. Mais ta vérité, ce sont ton cœur et ton esprit. Et eux, ils ne changeront pas, sauf pour devenir plus forts.
Elaine secoua la tête. Pas pour contredire la matriarche, enfin, pas vraiment. Mais elle n'avait jamais réfléchi à la vieillesse, et surtout pas depuis son passage par la Tour Blanche. Sur les épaules d'une Aes Sedai, le temps ne pesait pas bien lourd. Mais qu'arriverait-il si elle vivait aussi longtemps que les membres de la famille? Ça impliquerait de renoncer à son statut de sœur, mais pourquoi pas? Si ces femmes mettaient du temps à développer des rides, elles finissaient par en avoir. Que pensait Avienda de son côté? Elle semblait si morose.
Chez la femme que vous voulez comme première sœur, qu'est-ce qui vous semble le plus puéril?
Beaucoup plus facile, ça, et moins glissant comme terrain. Elaine se surprit même à sourire en parlant. Morosité oubliée, Avienda fit de même. Avec le décalage habituel, les propos des deux femmes retentirent.
Avienda refuse que je lui apprenne à nager. J'ai essayé, c'est impossible. Elle n'a peur de rien, sauf d'un volume d'eau supérieur à celui d'une baignoire. Elaine se gave de confiserie avec les deux mains, comme un gosse qui échappe à la surveillance de sa mère. Si elle continue, elle sera grosse comme une vache.
Elaine sursauta. Se gaver, elle? Une gâterie de temps en temps, rien de plus. Quant à être grosse comme une vache. Mais pourquoi Avienda la foudroyait-elle du regard? Refuser d'avoir de l'eau au-dessus des genoux était vraiment puéril. Monael porta une main à sa bouche pour étouffer un toussotement, histoire de cacher un sourire en réalité, aurait parié Elaine. Quelques matriarches rirent franchement. De la stupidité d'Avienda ou de sa gourmandise. Monael se reprit, arrangea ses jupes autour d'elle et parla d'un ton quand même un peu plus léger.
Chez la femme que vous voulez prendre pour première sœur, qu'enviez-vous le plus?
Malgré l'exigence de sincérité, Elaine aurait triché si elle avait dû en rester à sa réponse spontanée. Mais une autre idée lui était venue, moins embarrassante pour elles deux et plus convenable. Certes. Pourtant, il y avait cette affaire de seins exhibés et de sourire aux hommes. Pas faux, peut-être. Mais Avienda allait et venait nue comme un ver devant de pauvres serviteurs écarlates qu'elle semblait ne pas voir. Et cette accusation de se gaver? Une vache, vraiment? Elaine dit la vérité toute nue, tandis qu'Avienda parlait de son côté.
Avienda a connu charnellement l'homme que j'aime. Pas moi. Ça ne m'arrivera peut-être jamais, et je pourrais en pleurer de désespoir. Elaine est aimée de Randaltor. De Rand, oui. Mon cœur saigne, tant je désire qu'il m'aime aussi. Mais j'ignore s'il le fera un jour.
Elaine dévisagea son amie. Elle l'enviait à cause de Rand, alors qu'il l'évitait comme si elle était une pestiférée? C'était complètement... Tamela écarta les mains des épaules d'Avienda.
« Gifle-la le plus fort possible !»
lui lança-t-elle.
« Ne te défends pas !»
souffla Viendré à l'oreille d'Elaine. On ne leur avait pas parlé de ça. Mais Avienda n'allait pas... Clignant des yeux, Elaine se releva péniblement et porta une main à sa joue en feu. Toute la journée, il y resterait l'empreinte d'une paume. Avienda n'aurait pas été obligée de frapper si dur.
« Gifle-la le plus fort possible !»
dit Viendré, quand la future reine se fut de nouveau agenouillée. Non, pas question de tabasser son amie. C'était... Sous l'impact, Avienda bascula sur le côté et faillit s'écrouler sur Monael. Elaine secoua sa main, presque aussi douloureuse que sa joue. Avienda se releva, hocha la tête, puis se remit à genoux.
L'autre main,
dit Tamela. Cette fois, Elaine atterrit sur les genoux d'Amis, les deux joues et les oreilles en feu. Quand elle eut repris sa position, elle obéit à Viendré et mit tout le poids de son corps dans son second coup. Emportée par son élan, elle faillit s'étaler sur Avienda, qui avait basculé en arrière.
« Vous pouvez sortir maintenant, »
dit Monaël. Elaine tourna la tête vers la matriarche. À moitié redressée, Avienda se pétrifia.
« Si c'est ce que vous désirez, »
continua Monaël.
« Les hommes abandonnent à ce point, voire plus. Beaucoup de femmes aussi. Mais si vous vous aimez encore assez pour continuer, enlacez-vous. »
Elaine se jeta sur Avienda. La hyène ayant fait de même, le choc faillit les assommer. Serrées l'une contre l'autre, en larmes, elles murmurèrent.
« Avienda, je suis désolée. Elaine, pardonne-moi, pardonne-moi. »
Monaël approcha, les dominant de toute sa hauteur.
« Vous serez de nouveau en colère l'une contre l'autre, et vous vous direz des horreurs. Mais vous n'oublierez pas que vous vous êtes déjà frappés. Sans raison, juste parce qu'on vous le demandait. Que ces coups vaillent pour tous ceux que vous aurez envie de vous donner. Vous avez un tort l'une envers l'autre, sans qu'il soit possible de vous en acquitter. N'essayez pas, car une femme a toujours une dette vis-à-vis de sa première sœur. Maintenant, vous allez renaître. »
Dans la pièce, la nature du Saïdar changea. Comment, Elaine n'aurait su le dire, même si elle avait eu le temps d'y réfléchir. La lumière vacilla comme si les lampes agonisaient. Elle ne sentit presque plus le contact d'Avienda, et les sons devinrent lointains.
« Oui, vous allez renaître !»
répéta Monaël, comme si elle était à des lieues de là. Tout disparut, et Elaine aussi cessa d'exister. La conscience. Enfin, une espèce de conscience. Sans penser à soi comme à soi, en somme. Sans penser du tout, même. Mais en existant et en entendant des sons. Un liquide clapotait. Des gargouillis. Un battement rythmique. Oui, ce battement surtout. La satisfaction, sans savoir de quoi il s'agissait exactement. Elle, oui, elle, c'était bien ça, ignorait ce qu'était le temps et sentait pourtant les âges se succéder. En elle, il y avait un bruit, et ce bruit, eh bien, c'était elle. Un battement. Puis un autre, similaire et tout proche. Des battements simultanés. Une union parfaite. Deux êtres qui n'en formaient qu'un. Au son de cette pulsation, l'éternité se dévida, tout le temps qui existait depuis la création du monde. Touchant l'autre qui était elle-même, elle sentit la pulsation. Avec son autre moi, elle était enlacée, puis s'en séparait, mais l'une revenait toujours vers l'autre. Parfois, un peu de lumière déchirait les ténèbres, pas assez pour y voir, mais presque aveuglante quand on avait toujours connu l'obscurité. Le battement, encore. Elle ouvrit les yeux, sonda le regard de son double, puis baissa les paupières, satisfaite. La pulsation, toujours. Puis il y eut un changement, bouleversant, lorsqu'on n'en avait jamais connu. Une pression. La pulsation réconfortante s'accéléra. Une pression convulsive. Répétée, répétée. Répétée, et de plus en plus forte. Les battements désormais affolés. Soudain, le double se volatilisa. Elle était seule. Effrayée sans savoir ce qu'était la peur, et totalement seule. La pulsation, la pression. Écrasée, elle aurait voulu crier, mais sans savoir comment s'y prendre. D'ailleurs, c'était quoi un cri ? Puis la lumière, un flot de lumière aveuglante. À présent, elle avait une consistance et un poids. Une expérience inédite. Une douleur soudaine au ventre. Quelque chose chatouillant son pied, puis son dos. Au début, elle ne comprit pas qu'elle produisait les étranges sons qui lui perçaient les tympans. Elle battit des jambes, puis des bras, agitant des membres qui ne savaient pas vraiment bouger. On la souleva et la posa sur une surface douce, et pourtant plus dure que tout ce qu'elle avait connu, à part le contact de l'autre qui était elle-même et qui avait disparu. la pulsation encore. Celle d'avant, mais elle ne l'entendait plus de la même façon. Un grand sentiment de solitude aussi, avec en même temps une intense satisfaction. Les souvenirs revinrent lentement. Levant sa tête serrée contre une poitrine, elle reconnut le visage d'Amis. Amis, oui. Lustrée de sueur, épuisée mais souriante. Elaine, elle s'appelait Elaine. Elaine Trakand. Mais elle n'était plus seulement elle-même désormais. Ce n'était pas le lien avec sa championne, juste quelque chose de très semblable, moins violent et plus magnifique. Tournant difficilement la tête, car son cou semblait sans force, Elaine regarda son double, blotti contre l'autre sein d'Amis. Avienda, ruisselante de sueur, les cheveux collés sur le crâne, mais vibrante de joie. Rire et larmes mêlées, elles s'enlacèrent, comme si elles ne voulaient plus jamais être séparées.
« Voici ma fille Avienda, »
dit Amis.
« Et voici ma fille Elaine. Née le même jour, à la même heure. Qu'elles veillent à jamais l'une sur l'autre, se soutiennent et s'aiment en toutes circonstances. »
La matriarche eut un rire plein de tendresse et de lassitude.
Maintenant, pourrions-nous avoir des vêtements avant de mourir de froid toutes les trois ?
Se fichant de mourir de froid ou non, Elaine serra plus fort Avienda. Elle avait trouvé sa sœur. Par la lumière. Oui, elle avait trouvé sa sœur. Tovein Ghazal se réveilla au son d'une activité fébrile mais étouffée. Des femmes allaient et venaient, certaines en murmurant entre elles. Couchée sur son étroit lit de camp, elle soupira d'accablement. Ses mains nouées autour du cou d'Elaïda. Hélas, c'était un rêve. La petite pièce tendue de toile, elle, était bien réelle. Après une mauvaise nuit, Tovein se sentait épuisée. En plus, elle avait dormi trop longtemps et n'aurait pas le temps de prendre un petit déjeuner. À contre-cœur, elle repoussa ses couvertures. Le bâtiment, un petit entrepôt, avait des murs épais, et de grosses poutres s'entrecroisaient au plafond. Malgré cette bonne isolation, on y crevait de froid. Son souffle se transformant en buée, la sœur frissonna quand l'air mordant traversa son chemisier, avant même qu'elle ait posé les pieds sur le plancher usé. Bien que tentée de rester couchée dans ce refuge, Tovein avait des ordres, et son ignoble lien avec Loghain lui interdisait toute désobéissance, même si elle en rêvait jour et nuit. Sans cesse, elle essayait de penser à cet homme en le nommant Ablar, au pire Maître Ablar, mais ce nom Oni, Loghain, lui revenait toujours. Un nom tragiquement célèbre. Loghain. Le faux dragon qui avait écrasé les armées de son Gialdan natal. Loghain, qui s'était frayé un chemin au milieu des rares Altariens et Mourandiens assez braves pour tenter de l'arrêter, et ce jusqu'à menacer Lugard, rien que ça. Loghain, apaisé, et pourtant encore capable de canaliser le pouvoir. Loghain, la vermine qui avait osé ancrer ses maudits tissages de Saïdine sur Tovein Ghazal. Sans lui ordonner de cesser de penser. Une erreur qu'il regretterait un jour. Au fond de sa tête, elle sentait la présence de cet homme. Toujours là, quoi qu'il arrive. Tovein s'autorisa à fermer un instant les yeux. Dire que la ferme de maîtresse d'Owil lui avait paru pire que la fosse de la perdition. Des années d'exil et de pénitence, sans aucun moyen de s'échapper. Sauf en devenant une renégate impitoyablement traquée, le comble de l'horreur. Une semaine et demie après sa capture, Tovein n'était plus dupe. La fosse de la perdition, en plus terrible, c'était ici, et aucun espoir de s'enfuir. Furieuse, la sœur secoua la tête, puis essuya l'humidité poisseuse qui collait à ses joues. Non, elle réussirait à s'évader, au moins le temps de nouer pour de bon ses mains autour du cou de Laïda. Le lit de camp compris, il y avait quatre meubles dans l'espace délimité par la toile. Assez pour n'avoir pratiquement pas la place de bouger. Avec son couteau, la sœur cassa la glace qui emplissait le broc posé sur la petite table de toilette. Jetant les éclats dans la cuvette blanche, elle les fit fondre avec quelques filaments de saïdar. Pour les tâches de ce genre, elle avait le droit de canaliser. Mais rien de plus. S'abandonnant à la routine, elle se brossa les dents avec du bicarbonate, puis piocha un chemisier et des bas propres dans le petit coffre rangé au pied du lit. Au fond de ce coffre, sous ses maigres possessions, sa bague au serpent reposait dans un petit sac en velours. Un ordre, là encore. Tous ses biens étaient ici, à part son bureau pliable. Coup de chance, il avait été égaré au moment de sa capture. Ses robes étaient rangées dans une étroite penderie. En choisissant une au hasard, Tovein s'habilla, puis entreprit de se peigner et se brosser les cheveux. Quand elle se vit dans le miroir miteux de la table de toilette, son bras s'immobilisa. Le souffle court, elle posa la brosse à manche d'ivoire à côté du peigne assorti. D'un rouge si sombre qu'il en paraissait noir comme le manteau d'un achaman, sa robe de laine brodée n'était pas si moche que ça, mais son image distordue lui semblait laide. Pourtant, elle devait s'accrocher, parce que changer serait une forme de reddition. Déterminée, elle s'empara de son manteau doublé de martre, l'enfila et écarta le rabat de la toile. Une vingtaine de sœurs arpentaient l'allée centrale du dortoir, où s'alignaient des chambres semblables à la sienne. Certaines femmes conversaient à voix basse. La plupart, cependant, évitaient de se regarder, y compris quand elles appartenaient au même aja. L'effet de la peur, bien entendu, mais surtout de la honte. Sœur grise, solidement bâtie, accourait, regardait la main où elle portait d'habitude sa bague. Des cendres, une sœur jaune élancée, cachait sa main droite sous son aisselle gauche. Dès que Tovein se fut montré, les conversations moururent, et plusieurs femmes la foudroyèrent du regard, dont Jennare et Lemaille, pourtant membres de son aja. Revenant un peu à la réalité, Descendre lui tourna ostensiblement le dos. En deux jours, 51 Aes Sedai étaient tombés entre les mains des monstres en veste noire. Dans le lot, 50 faisaient porter le blâme à Tovein, comme si Elaïda n'avait rien à voir avec ce désastre. Sans l'intervention de Loghain, ses sœurs se seraient vengées sur la bête durant leur première nuit d'incarcération. Tovein ne le remerciait pas de l'avoir sauvé, puis d'avoir forcé Carnielé à guérir les zébrures laissées par les ceintures et les horions dus aux coups de pied et de poing. Plutôt que d'être redevable à ce chien, elle aurait préféré qu'on la batte à mort. Le manteau sur les épaules, elle remonta l'allée centrale, la tête bien droite, puis sortit sous la lumière d'un soleil en berne qui convenait très bien à sa profonde morosité. Dans son dos, une femme cria, mais la porte se referma, étouffant ses injures. Les mains tremblantes, Tovein releva sa capuche bordée de fourrure noire. Personne ne la défiait impunément. Après l'avoir en apparence humiliée pendant des années, même maîtresse d'Owil l'avait appris à ses dépens. Elle leur montrerait à toutes ces femmes. Oui, elle leur montrerait. Le dortoir d'où elle sortait se trouvait à la lisière d'un grand village, des plus étranges, à vrai dire. Un village d'Achaman. Ailleurs, murmurait-on, on avait tracé sur le sol les contours d'un complexe qui ridiculiserait la Tour Blanche. Mais pour l'heure, les chiens en veste noire vivaient presque tous ici. Un ensemble de 5 casernes de pierre semées le long de rues aussi larges que celles de Tarvalon. Chacune pouvait contenir une centaine de soldats. Pour l'instant, elle n'était pas pleine. La lumière en soit louée, mais des échafaudages couverts de neige attendaient l'arrivée d'ouvriers pour achever la construction de deux structures supplémentaires, quasiment terminées à part la toiture. 10 bâtiments plus petits pouvaient accueillir une dizaine de dévoués chacun, et un 11e était en voie d'achèvement. Tout autour, on trouvait quelque 200 maisons, semblables à celles de n'importe quel village. Les hommes mariés y vivaient avec leurs familles, ou les femmes et les enfants pour les recrues pas encore formées. Tovein ne redoutait pas les hommes capables de canaliser le pouvoir. Au début, elle avait paniqué, mais c'était terminé. 500 types de ce genre, cela dit, faisait un sacré fragment d'os coincé entre ses dents. 500 par la lumière, dont beaucoup pouvaient voyager. Un fichu fragment d'os, oui. De plus, pour atteindre le mur d'enceinte, elle avait dû marcher près d'une demi-lieue dans la forêt. Et ça, c'était effrayant. Ce que ça signifiait, du moins. Pas encore achevé non plus, le mur ne mesurait, au mieux, pas plus de 15 pieds de haut, et les tours ou postes de garde n'émergeaient pas encore du sol. Par endroits, Tovein n'aurait pu enjamber un ridicule muret, si elle n'avait pas eu l'interdiction absolue de s'évader. Cette muraille courait sur plus de 2 lieues, et selon Loghain, on avait posé la première pierre moins de 3 mois plus tôt. Dominant Tovein, il n'allait sûrement pas prendre la peine de lui mentir. Selon lui, ces fortifications étaient un gaspillage d'énergie et de temps. Peut-être, mais la sœur en claquait quand même des dents. 3 mois. Avec l'aide de la moitié masculine du pouvoir. Dès qu'elle pensait à ce mur, Tovein imaginait une force impossible à arrêter. Une avalanche de pierres noires qui recouvrirait bientôt la tour blanche. Bien entendu, c'était impossible. Pourtant, quand elle ne rêvait pas qu'elle étranglait Elaïda, la sœur faisait ce cauchemar-là. Il avait neigé dans la nuit. Ça se voyait sur les toits uniformément blancs. Tovein n'eut pourtant pas à peiner pour avancer dans les rues. Avant le lever du soleil, des recrues avaient tout déblayé, avec le pouvoir, bien entendu. Les achamans utilisaient le saïdin pour tout, de la coupe du bois au nettoyage des vêtements. À cette heure, quelques-uns couraient dans les rues, et les plus nombreux, debout devant leur baraquement, sautaient d'un pied sur l'autre, tandis que des dévoués faisaient l'appel. Portant de lourds paniers destinés à l'entrepôt de l'intendance ou des seaux d'eau, des femmes chaudement vêtues avançaient lentement. Sachant ce qu'était leur mari, comment pouvait-elle rester ici? Tovein ignorait la réponse, qui dépassait son entendement. Plus bizarre encore, des enfants couraient dans les rues, jouant autour de groupes d'hommes capables de canaliser. Comme s'il était banal de s'amuser avec un cerceau, une balle, une poupée ou un chien à quelques pas de la mort. Ce semblant de normalité soulignait le côté maléfique et nauséabond de ces lieux. Devant la sœur, des cavaliers approchaient au pas. Depuis qu'elle était ici, une courte éternité aurait-on pu dire, elle n'avait jamais vu des gens à cheval à l'intérieur du village. Quelques chariots, oui, mais pas de cavaliers. Et aucun visiteur. Jusqu'à ce jour, en tout cas. Cinq types en veste noire escortaient deux femmes blondes et une dizaine de gardes royaux en uniforme rouge. L'une des femmes portait un manteau rouge et blanc bordé de fourrure, et l'autre... Tovein écarquilla les yeux. L'autre arborait un ample pantalon vert du camp d'or et une veste qui semblait être celle du capitaine général de la garde. Des galons sur ses épaules confirmaient que Tovein n'avait pas la berlue. La sœur songea qu'elle s'était peut-être trompée sur les 10 hommes. Cette usurpatrice risquait de déchanter quand elle rencontrerait de vrais gardes royaux. Quoi qu'il en soit, pour des visiteurs, il était bien trop tôt. Chaque fois que l'étrange colonne passait devant des recrues en rang, l'homme qui la conduisait lançait un « garde à vous », tonitruant. Aussitôt, les types en noir devenaient plus raides que des statues, le petit doigt sur la couture du pantalon. Après avoir tiré sur la capuche pour dissimuler son visage, Tovein se plaqua contre la façade d'un des plus petits bâtiments. Une épée d'argent sur son col montant, un type la regarda en passant, puis s'éloigna au pas de charge. Tovein fut frappée par la stupidité de ce qu'elle venait de faire. Furieuse, elle faillit éclater en sanglots. Aucun de ces gens n'aurait pu reconnaître le visage d'une Aes Sedai. Et si une des femmes savait canaliser, si invraisemblable que ce fût, elle ne serait pas passée assez près d'elle pour sentir qu'elle le pouvait aussi. Alors qu'elle occupait son temps à imaginer un moyen de désobéir à Loghain, voilà qu'elle exécutait ses ordres sans même y penser. Par défi, elle s'immobilisa et se tourna vers les visiteurs. D'instinct, ses mains volèrent vers sa capuche. Impossible de les garder le long de son corps. Pitoyable et ridicule, vraiment. Tovein connaissait de vue la chamane qui guidait la colonne. Un costaud d'âge moyen, aux cheveux noirs huileux, au sourire mielleux et aux yeux hallucinés. Les autres cavaliers ne lui disaient rien. Mais qu'espérait-elle gagner dans tout ça? Confier un message à un des visiteurs? Même si les achamans les lâchaient, comment pourrait-elle approcher assez de ces gens alors qu'elle avait l'ordre, incontournable, de cacher à tout étranger la présence d'Aes Sedai dans le camp? Le type aux yeux de devin semblait accablé par sa mission. Tout juste s'il daignait cacher ses bâillements derrière une main gantée.
« Et quand nous en aurons terminé avec ce secteur ?»
dit-il en passant devant Tovein.
« Je vous montrerai la ville des artisans. Un endroit bien plus grand qu'ici. Nous avons des maçons, des charpentiers, des forgerons, des tailleurs. Nous pouvons vivre en autarcie, Dame Elaine. Sauf pour les navets !»
lança la femme en uniforme. L'autre eut un rire de gorge. Tovein suivit les cavaliers du regard. « Dame Elaine ? Elaine Trakand ?» La plus jeune des visiteuses correspondait à la description qu'on lui avait donnée. Elaïda n'avait pas précisé pourquoi elle tenait tant à mettre la main sur une acceptée en fuite, future reine ou non. Mais pas une sœur ne sortait de la tour sans avoir l'ordre d'ouvrir l'œil et de coincer Elaine.
« Sois prudente, Elaine Trakand. Je ne voudrais pas qu'Elaïda ait la satisfaction de te capturer. »
Tenté de se demander s'il y avait moyen de tirer parti de la venue d'Elaine au camp, Tovein sentit soudain quelque chose, dans un coin de sa tête. Une satisfaction paresseuse et une intention naissante. Loghain venait de finir son petit déjeuner. Il sortirait bientôt, et il lui avait ordonné d'être là quand il le ferait. Les jambes de Tovain coururent sans lui demander son avis. Du coup, sa jupe s'entortilla autour de ses chevilles, et elle s'étala, le souffle coupé. Furieuse, elle se releva, et sans prendre le temps de s'épousseter, repartit de plus belle. Des hommes se moquèrent d'elle sur son passage, et des enfants hilares la désignèrent du doigt. Puis des chiens l'entourèrent, les plus téméraires lui reniflant les talons. Elle sauta et décocha des coups de pied, mais les maudits cabots ne la lâchèrent pas. Folle de rage, elle aurait voulu hurler à la mort. Les chiens étaient une plaie, mais interdit de canaliser pour les disperser. Un corneau gris saisit un pan de sa robe entre ses crocs, l'attirant sur le côté. Cette fois, Tovain paniqua. Si elle tombait encore, les chiens la dévoreraient vivante. Une femme en robe de laine marron jeta son lourd panier sur le corneau, le forçant à lâcher prise. Propulsé par une solide matrone, un seau atterrit sur le dos d'un clébard tacheté, qui détala en glapissant. Tovain s'en pétrifia de surprise. Du coup, un autre chien s'en prit à sa jambe. Au prix d'un lambeau de son bas et d'un morceau de chair, la sœur parvint à se dégager. Des femmes l'entouraient, chassant les chiens avec tout ce qui leur tombait sous la main.
« Filez, Aes Sedai !»
dit une femme grisonnante, presque squelettique. Elle flanqua un coup de bâton à un cabot.
« Ils ne vous embêteront plus. Je voudrais bien avoir un joli chat, mais mon mari ne serait pas d'accord. Filez, vous dis-je »
Tovain ne prit pas le temps de remercier ses bienfaitrices. En courant, elle tenta de réfléchir. Toutes les femmes savaient pour les Aes Sedai. Si une était au courant, les autres aussi. Mais elle ne porterait pas de message et ne faciliterait pas une évasion, parce qu'elle désirait rester ici. Comprenait-elle à quoi elle contribuait? Toute la question était là. Un peu avant la maison de Loghain, dans une rue étroite où plusieurs demeures de ce type s'alignaient, Tovain ralentit et arrangea sa jupe. Une dizaine d'hommes en veste noire de tous âges attendaient Loghain, qui ne s'était pas encore montré. Mais elle le sentait dans sa tête, résolue et concentrée. Peut-être en train de lire. La sœur continua son chemin d'un pas altier. Aes Sedai jusqu'au bout des ongles, quoi qu'il arrive. De quoi en oublier sa fuite éperdue devant les chiens. Chaque fois, la maison la surprenait. Dans la rue, plusieurs étaient aussi grandes, et deux bien plus imposantes. Une demeure en bois ordinaire à deux niveaux n'était la porte, les volets et l'encadrement des fenêtres peints en rouge. Des rideaux occultants empêchaient de voir à l'intérieur. De toute façon, à travers les vitres de mauvaise qualité, on n'aurait rien pu distinguer. Bref, une résidence acceptable pour un boutiquier pas très prospère, mais en aucun cas pour un des hommes les plus célèbres du monde. Tovain se demanda ce qui retenait Gabrel. Les autres sœurs liées à Loghain avaient les mêmes ordres qu'elle, et jusque-là, Gabrel était toujours arrivée la première. Concentrée, elle étudiait la chamane comme si elle avait l'intention d'écrire sa biographie. C'était possible, au fond, vu que les sœurs marrons consignaient absolument tout par écrit. Tovain chassa Gabrel de son esprit. Cela dit, si elle arrivait très en retard, il faudrait découvrir comment elle s'y était prise. Mais il y avait plus urgent. Les hommes qui attendaient devant la porte rouge regardèrent la sœur, mais ne firent aucun commentaire, même entre eux. Cela posé, ils ne manifestèrent pas d'animosité non plus. Aucun ne portant de manteau, malgré le froid qui transformait leur souffle en buée. Tous des dévoués, une épée d'argent au col. Chaque matin où Tovain venait au rapport, elle voyait le même spectacle. Avec des hommes différents, cela dit. De tous ces gens, elle ne savait pas grand-chose. À part quelques noms et une poignée de détails. Appuyée contre l'angle de la maison, Evin Vinchova, le beau gosse présent lors de sa capture par Loghain, jouait avec un morceau de ficelle. Avec son visage buriné de fermier et sa barbe tressée et huilée, Donalo Sandomere, sans doute pas son véritable nom, tentait d'adopter la posture nonchalante d'un authentique noble. Androl Guénald, un tarabonnet costaud à l'air pensif, croisait les mains dans le dos. Même s'il portait une chevalière en or, Tovain aurait juré qu'il s'agissait d'un apprenti qui avait rasé sa moustache et abandonné le voile. Medzar Kourin, un domani aux tempes grises, jouait avec la boucle en grenat de son oreille gauche. Lui, il pouvait être un noble mineur. Tovain enregistrait dans son esprit une série de noms et de visages. Un jour ou l'autre, ces hommes seraient recherchés. et les informations permettant de les identifier deviendraient cruciales. La porte rouge s'ouvrit. Les hommes se redressèrent, mais ce ne fut pas Loghain qui apparut. Tovein sursauta, puis elle soutint le regard de Gabrel, sans faire d'effort pour cacher son dégoût. À cause du maudit lien, elle avait senti à quelle activité Loghain se livrait pendant la nuit, de quoi ne pas réussir à fermer l'œil. Mais sans jamais imaginer que Gabrel, elle, sa partenaire. Plusieurs achamans parurent aussi étonnés que la sœur. Certains sourirent sous cap, et Corinne, rayonnant, lissa sa fine moustache, d'un index triomphant. L'indigne Aes Sedai n'eut même pas la décence de rougir. Levant un peu son nez en trompette, elle tira sur le devant de sa robe, une façon de proclamer qu'elle venait juste de l'enfiler, posa son manteau sur ses épaules et avança vers Tovein. Tranquille, comme si elles étaient dans un couloir de la Tour Blanche. Tovein la prit par le bras et la tira à l'écart.
« Nous sommes prisonnières, mais ce n'est pas une raison pour se plier à tout, en particulier à la lubricité d'Ablar. »
Gabrel ne parut même pas troublé. Une idée traversa l'esprit de Tovein.
« Il t'a ordonné de... »
Avec un ricanement, Gabrel libéra son bras.
« Tovein, il m'a fallu 2 jours pour décider de me plier à sa lubricité, comme tu dis. Et je me suis félicité qu'il en faille seulement 4 pour qu'il me laisse faire. Étant une sœur rouge, tu l'ignores peut-être, mais les hommes sont des bavards invétérés. Il suffit d'écouter ou de faire semblant pour qu'ils te racontent leur vie. »
Gabrel plissa pensivement le front.
« Je me demande si c'est pareil pour les femmes ordinaires. »« De quoi parles-tu ? »
Gabrel espionnait-elle Loghain ? Ou glanait-elle des informations pour son futur livre ? Quoi qu'il en soit, son comportement était inadmissible, même pour une sœur marron.
« Qu'est-ce qui est pareil ?»
Toujours pensive, Gabrel murmura.
« Je me suis sentie impuissante. Il est plutôt doux, mais... Eh bien... Jusque-là, je n'avais jamais réfléchi à la force des bras d'un homme, comprends-tu ? Et moi, incapable de canaliser le moindre flux. Il me dominait, en un sens, bien que ce ne soit pas tout à fait exact. Disons qu'il était le plus fort, et que je le savais. C'était étrangement exaltant.
Tovein frissonna. Gabrel devait avoir perdu la tête. Elle allait le lui dire quand Loghain sortit à son tour et ferma la porte derrière lui. Les cheveux noirs, les épaules larges et les traits arrogants, il était plus grand que tous les autres achamans. Sur son col figurait l'épée d'argent et un ridicule lézard censé être un dragon. Alors que les autres se massaient autour de lui, il sourit à Gabrel qui s'empama d'aise. Tovein frissonna de nouveau. Exaltant, cette femme était cinglée. Comme tous les matins, les hommes firent leur rapport. Le plus souvent, Tovein n'en comprenait pas un mot. Mais elle écoutait quand même.
J'en ai trouvé 2 de plus qui s'intéressent au nouveau type de guérison que cette femme, Ninevé, a utilisé sur toi,
dit Guénald.
Mais le premier sait à peine guérir avec la méthode classique. Et l'autre veut en savoir trop long. Plus que je ne peux lui en dire, en tout cas. Tu en sais autant que moi, répondit Loghain. Maîtresse Almehara ne m'a pas fourni beaucoup d'explications. Mais j'en ai glané en écoutant les autres sœurs. Continue à semer. Et espérons que quelque chose pousse. C'est tout ce que tu peux faire.